Radio Okapi.
Modero Ntsimba, assigné à résidence surveillée depuis hier mercredi par la Cour de cassation, l'ancien ministre du Tourisme et actuel député national comparé aujourd'hui en flagrance pour propagation des faux bruits dans l'affaire de la mort de Chérubin Okendé. Plus de 60 tonnes de cathodes de cuivre saisies par les services de sécurité dans le Haut-Katanga. Les voleurs et leurs complices ont été présentés au gouverneur de province hier mercredi. L'invité de ce midi est Gilbert Magala, chef de centre de la régie des eaux Kalemi. À Kalemi, la régie des eaux n'est pas en mesure de desservir toute la ville en eau potable ces derniers temps. Bonjour à tous. Justice pour commencer. Modero Ntsimba, ministre honoraire du tourisme et actuellement député national, est assigné à résidence surveillée depuis hier mercredi par la Cour de cassation. Il comparaît aujourd'hui jeudi en flagrance pour imputation dommageable et propagation des faux bruits. Le parquet général pris cette cour l'accuse d'avoir attribué la mort de Chérubin Okendé notamment à Christian Tshisekedi, jeune frère au président de la République, et au général Ndaiwel, le chef des services de renseignement militaire d'EMIAP, ce à travers un audio devenu viral dans lequel le député parle d'un conflit immobilier qui aurait mal tourné. On écoute à ces sujets le juge président Kobe Kalala. Il est au micro de Jeff Ngoy.
En procédure de flagrance pour avoir publié dans les réseaux sociaux un audio devenu viral dans lequel il a mis en cause M. Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi et Ndaiwel dans les conflits portant sur un immeuble et opposant les premiers cités au défunt Chérubin Okendé, lequel aurait mal tourné. Dans sa défense, le prévenu affirme que les conditions de sa détention préventive ne sont pas réunies. Il sollicite sa mise en liberté provisoire au motif que sa fuite n'est pas crainte, car ayant un domicile fixe et une identité connue, étant un ministre et un député honoraire. La Cour de cassation dit qu'il y a lieu d'ordonner sa mise en détention préventive car les faits mis à sa charge paraissent graves. Se fondant sur l'article 76, alinéa 3 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, elle l'assignera à résidence surveillée.
Le vol des cathodes de cuivre se porte bien dans la province du Haut-Katanga et les autorités locales s'en inquiètent. Hier mercredi, plus de 60 tonnes des cathodes de cuivre saisies par le service de sécurité ainsi que quelques complices ont été présentés au gouverneur Jacques Kiaboula. Ce dernier, qui s'est félicité de ces jolis coups de filet, a souhaité que cette fois-ci, la justice arrive à établir les responsabilités pour que les coupables soient condamnés afin que ces phénomènes qui de l'ampleur prennent fin. Jean Gandou.
Les premières informations renseignent que ces minerais ont été interceptés à Likasi par les services de sécurité il y a près d'une semaine. Ce mercredi, ces bulletins ont été présentés aux membres du conseil provincial de sécurité avec à leur tête le gouverneur du Haut-Katanga. Ce feuille de cathode de cuivre était transporté dans deux camions. Le premier avait 697 feuilles et le deuxième 308. D'après certaines sources, ces biens seraient volés dans la ville de Kolwezi. Les services de sécurité ont aussi mis la main sur certaines personnes qui seraient directement impliquées dans ce vol que le gouverneur du Haut-Katanga qualifie de crime économique. Jacques Kiaboula.
Ça fait 10 mois que nous procédons à des arrestations de cathodes, mais on ne connaît pas qui est dans ces circuits. Jamais vous nous avez présenté les auteurs de ces faits. Mais cette fois-ci, au moins, vous avez 3-4 personnes qui sont totalement impliquées et qui sont entre vos mains. Nous voulons au moins cette fois-ci qu'on organise une audience foraine, que ce soit au niveau de Likasi, que ce soit au niveau de Lubumbashi, mais que nous ayons la possibilité de suivre et que les gens soient condamnés. Ça, c'est un crime économique.
Notons que le vol des cathodes de cuivre est récurrent dans la province, mais les commanditaires de ces actes demeurent toujours inconnus. C'est le cas notamment de 120 tonnes de cathodes de cuivre appartenant à la société minière Tenkefungrome Mining qui avait défrayé la chronique l'année dernière. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
La RDC est de nouveau éligible pour l'année 2024 à la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA. Madame l'ambassadeur américain Lucy Tamlin a transmis transmis cette information au ministre de l'Industrie, Julien Paluku, hier mercredi à Kinshasa, lors d'une rencontre de travail. Selon une dépêche de ce ministère parvenue à Radio Okapi, la loi AGOA permet l'exportation des produits congolais vers les USA sans payer les frais de douane. Paul Matendo pour les détails.
L'administration Biden note des progrès dans l'établissement d'une économie des marchés, l'amélioration du climat des affaires, des natures à attirer les consommateurs et les investisseurs américains, a souligné la diplomate américaine en RDC au cours de cette rencontre. Pour sa part, Julien Paluku a souligné que le volume des échanges vers les États-Unis est faible de près de 200 millions de dollars américains par an, d'où son appel au patronat congolais à se saisir de cette opportunité pour exporter leurs produits vers les États-Unis. Notons que la RDC a rejoint AGOA en décembre 2020 après 10 ans de suspension. Ce retour était le fruit des avancées démocratiques et de beaucoup d'autres efforts fournis sur le plan économique, rapporte le ministre de l'Industrie. Cette loi a été promulguée en 2000 par l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Elle accorde une taxation préférentielle à des milliers de produits de l'Afrique subsaharienne exportés vers son pays.
Le projet de la mise en concession du port de Matadi signé entre le gouvernement et la firme américaine Africa Global Logistics, dont la mise en application est prévue pour le 1er mai prochain, préoccupe la délégation syndicale nationale. Hier mercredi, cette structure de défense des intérêts des travailleurs a tenu une assemblée générale au port international de Matadi pour une prise de position contre ce projet qu'il qualifie de machiavélique contre la société commerciale de transport et des ports SCTP. Ex-Onatra. D'après Armand Ossassé, président de l'intersyndicale nationale qui a animé cette rencontre, à travers les créances de la SCTP auprès du gouvernement congolais, cette société peut se redresser. Il demande au chef de l'État la résiliation pure et simple de ce contrat au profit de la population du Congo central qui a voté massivement pour sa réélection. On l'écoute au micro de Nana Plurich-Mambou.
Nous ne pouvons pas accepter cette privatisation sauvage et le président a été voté massivement par cette population qui aujourd'hui nous attendons du chef de l'État vraiment des signaux forts. L'ONATRAN vient de réhabiliter dès que pile 1, pile 2 en cours et qu'aujourd'hui donner la gestion une partie des ports de Matadi au privé, c'est déclarer pire et simple la vente du port de Matadi parce que les privés proposent à l'ONATRAN 15% et 85% pour ça pour les privés. Un contrat plus de 20 ans. Comment, alors que nous sommes en train de vivre une guerre injuste à l'est et donner l'attrait maritime à l'ouest à un privé? Non, c'est piéger le pays. Nous, l'ONATRAN, l'État notre créance est de 2,7 millions. Deuxième compte du gouvernement qui est nous bloqué injustement par le ministre des Finances. Or, dans les programmes d'urgence, l'ONATRAN est programme d'acheter au moins 5 grilles portuaires et des grilles qui déchargent au moins 200 conteneurs par et réhabiliter les chemins de fer, achat de 10 bateaux 20 barges pour le trafic fluvial. Et aujourd'hui, nous sommes bloqués injustement par les mêmes gouvernements qui vont aller signer des accords avec les privés. Nous ne pouvons pas accepter.
Dans la province du Maniema, le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala a donné un moratoire de 45 jours à l'association des exploitants des perroquets pour évacuer les 400 perroquets que détient cette association. C'était dans une correspondance qu'il a signée le 18 mars dernier. Cette nouvelle décision du gouverneur intérimaire fait fâcher la société civile Force Vive du Maniema qui fait savoir que celle-ci vise à déstabiliser tous les secteurs. Maître Stéphane Kamundala s'insurge contre cette décision car elle viole, selon lui, la Convention internationale sur le commerce des espaces en danger et pour laquelle la RDC avait ratifié. Maître Stéphane Kamundala est au micro de Florence Kizalunga.
La société civile Force Vive du Maniema s'insurge contre cette décision autorisant l'évacuation des 400 perroquets gris. Somme toute, la commercialisation de ces perroquets gris africains est un arbre qui cache au Maniema beaucoup de réalités et la fraude y est établie comme mode de fonctionnement. Déjà, l'on signale dans les lots des perroquets à évacuer prochainement la présence des oisillons ainsi que des perroquets verts, une manière d'exterminer ces espèces en RDC en général. générale et dans la province du Maniema en particulier. Au regard de tout ce qui précède, la Société civile Force civile du Maniema recommande à son excellence monsieur le gouverneur ad intérim de rapporter sa décision susindiquée pour l'intérêt supérieur de l'humanité, faute de quoi il sera considéré comme ennemi de la faune sauvage congolaise, favorisant l'exploitation et l'exportation illégale de ces espèces rares pour son compte.
Au Sud Kivu, les femmes des médias ont organisé hier mercredi une foire à Bukavu dans le but de promouvoir la contribution des femmes dans le domaine des médias. Cette cinquième édition a consisté à valoriser le travail réalisé par les femmes journalistes pour l'accès à l'information des plus vulnérables. C'est de cette façon-là que les femmes journalistes du Sud Kivu ont préféré célébrer la Journée internationale de droit de la femme du 8 mars. Jean Kassami nous fait le point.
Parmi les plus vulnérables pour l'accès à l'information, l'Association des femmes des médias du site qui vous fait référence et à toutes les couches sociales qui n'ont pas toujours la chance d'accéder à l'information au même pied d'égalité que d'autres citoyens congolais, particulièrement les populations rurales, les groupes autochtones, les communautés enclavées, les personnes vivant avec handicap et celles infectées au VIH. Julienne Basseke, coordinatrice de AFM Sud Kivu.
L'Association des femmes de médias a tenu à organiser ce 20 mars 2024 une foire de femmes journalistes qui est la cinquième édition. Et l'essence donnée à cette journée, c'est une journée de valorisation du travail réalisé par les femmes journalistes pour l'accès à l'information des plus vulnérables.
Conscient des défis qui pèsent sur le travail des femmes journalistes au Sud Kivu, le ministre des Communications et Médias, Tipson Idumbo, demande aux députés de voter une loi qui allège la fiscalité aux médias, mais aussi au gouvernement d'attribuer des redevances. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle, la zone de santé de Chomia enregistre une diminution de 50% des malades souffrant de paludisme depuis le début de cette année 2024. Ce constat est fait par les autorités sanitaires de cette entité. Elles attribuent cette baisse à l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides dont la campagne a eu lieu au mois de décembre de l'année dernière. La forte chaleur qui sévit dans la plaine du lac Albert ne permet pas également aux moustiques de se reproduire à cause de l'absence des lieux arides où ils peuvent se reproduire. La population est invitée cependant à maintenir propre leur lieu d'habitation. Le point avec Jean-Claude Loki.
Selon le médecin chef de zone de santé de Chomia, on enregistre de moins en moins lors des consultations des personnes souffrant de paludisme parmi les malades accueillis. La baisse est estimée à environ 50% et du coup, le nombre de décès liés à cette pathologie a aussi baissé. Docteur Hervé Bavi dit avoir fait ce constat à la fin du mois de février. Pour lui, ce sont les retombées de la vaste campagne de distribution gratuite par le gouvernement de plus de 106 000 moustiquaires à la population.
Nous venons de distribuer les moustiquaires imprégnés d'insecticides, puis les moustiquaires sont encore tout neufs, et puis nous continuons à sensibiliser, et ce qui fait que les gens utilisent suffisamment les moustiquaires. Les personnes qui sont malades de paludisme a un peu diminué. Il y a aussi la période sèche, il n'y a pas d'eau qui stagne. C'est que le nombre de moustiques aussi diminue. Même les hautes herbes, comme vous avez vu, ont séché. Ça fait que les gîtes de moustiques aussi a diminué. Comme conséquence, le nombre de personnes qui vont tomber malades de paludisme aussi a diminué dans la zone de santé.
Le médecin invite cependant la population à continuer à utiliser correctement ces moustiquaires et à assainir les alentours de leurs habitations pour éliminer les endroits où l'eau peut stagner, notamment les poubelles et les toilettes, ce qui peut favoriser la reproduction des moustiquaires. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les radios Okapi.
Au Nord Kivu, quelques milliers de familles des déplacés ont bénéficié des vivres et des non-vivres, dont du groupe des femmes engagées dans la prière pour la nation congolaise. La remise est intervenue hier mercredi dans le site dénommé Mabanga au quartier Lac Vert dans l'ouest de la ville de Goma. Conduite par la ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba, ces femmes leaders sont en visite humanitaire depuis mardi à Goma. Bernard Danyangi.
Constitué de vivres et non-vivres, notamment des sacs de haricots, riz, bidons, bâches, pagnes, vêtements, médicaments, ce don est remis pour soulager tant soit peu la souffrance de ces déplacés de guerre du 1-23 venus récemment de l'axe Sake-Chachaburemana, territoire de Masisi. La ministre Eve Bazaïba, qui a fait cette déclaration aux médias lors de la remise de ce don, qualifie de catastrophique la situation des déplacés autour de la ville de Goma.
Nous sommes venus leur redonner des sourires de manière tout à fait néfiste que sommaire. La situation est catastrophique. Dans ce sens que on est en face d'une population civile démunie, surprise de ce qui leur est arrivé. Ils viennent de Chacha, ils sont venus ici en fuyant pour la survie. Mais arrivés ici, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de latrine. Le minimum que l'être humain peut demander en dehors de tout.
Après le camp des déplacés de Mabanga au quartier Lac Vert, cette délégation de femmes engagée dans la prière pour la nation a visité quelques orphelinats dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu avant de finir à l'hôpital Charité Maternelle au cœur de la ville où elles ont remis quelques autres assistances aux personnes en situation précaire. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
En bref, au Nord Kivu, des affrontements sont signalés ce jeudi encore autour de l'agglomération de Bihambwe. C'est dans le groupement Mfuni Matanda, territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, ils opposent pour le deuxième jour consécutif les rebelles du 1-23 aux groupes armés locaux et à l'armée congolaise. Nos sources déplorent une avancée hier des rebelles du 1-23 à qui auraient occupé le village Bougouri à environ 4 km de Bihambwe. Le bilan de ces combats reste indisponible du fait que la zone est coupée de toute communication téléphonique. Nos sources indiquent que ces combats ont encore mis sur le chemin de l'exil des centaines de déplacés et qui ont pris la direction ouest vers le chef-lieu du territoire de Masisi.
Actualité internationale.
Le Soudan risque la pire crise de la faim au monde, ponctuée par une malnutrition galopante. L'alarme a été tirée par l'Organisation des Nations Unies mercredi, alors que les forces militaires et paramilitaires s'opposent depuis près d'un an. Les Sénégalais sont attendus aux urnes à la faveur de l'élection présidentielle. Ces scrutins interviennent après une période de trouble sur le plan politique, après l'annonce du report du scrutin du 25 février à la fin de l'année.
L'invité.
À Calémie, la régie des eaux n'est pas en mesure de desservir toute la ville en eau potable ces derniers temps. Cette situation est due à un problème au niveau de la station de captage d'eau. Notre invité Gilbert Magala, chef de centre de la régie des eaux à Calémie, donne des précisions à ces sujets dans cet entretien avec Paulin Munanga.
Monsieur Gilbert Magala, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il y a un problème qui se pose en rapport avec le manque d'eau dans certains quartiers de la ville de Calémie. Et cela est dû à quoi?
Effectivement, vous avez dit dans quelques quartiers de la ville de Calémie. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une période où il y a la montée des eaux. Les lacs Tanganyika, vous avez même remarqué que même les routes sont inondées avec beaucoup d'eau. On ne sait même pas passer. Si vous n'avez pas un véhicule de 4x4, vous ne pouvez pas passer même sur les routes principales. Cela est dû à la montée des eaux et vraiment, ça nous affecte aussi au niveau de notre captage. Notre captage qui se trouve à quelques mètres du lac Tanganyika, mais les conduites et les crépines qui nous donnent de l'eau à traiter, c'est dans les lacs. Et à cet endroit-là, c'est plein de sable, des déchets et toutes sortes de salités que la rivière Calémie charrue jusqu'au niveau de notre captage. C'est pour cela, vous avez remarqué qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Cela est dû à quoi? C'est parce que nos crépines souvent sont ensablées. Nos crépines sont bouchées à tout moment par ces mêmes salités-là. Alors, vous savez aussi qu'il y a le phénomène Sabasaba qui pourra peut-être arriver d'un moment à l'autre.
Sabasaba, c'est quoi?
Sabasaba, c'est un phénomène où on trouve que 7 jours de 24 heures sur 24 heures, c'est un problème avec les vagues dans les lacs. C'est là où je reviens encore pour dire que nos crépines qui sont là-bas sont déjà dans les sables. Et à chaque fois quand il y a bouchage, nous cherchons par tous les moyens pour faire intervenir les plongeurs, pour aller essayer de nettoyer. Mais quand le lac est agité, il y a beaucoup de vagues, les plongeurs ne savent même pas entrer parce qu'ils ne sauront pas avec les vagues et ils ne sauront pas voir là où se trouvent les crépines. Et les salités et les sables et tous les déchets qui sont là-bas, c'est ce qui fait que des fois, il y a problème de bouchage de nos crépines. Donc là, il faudrait maintenant prendre un peu de patience. On attend un peu. Dès que les lacs se calment un peu, c'est là où on fait intervenir les plongeurs. Il va, il nettoie. Et là, nous avons une petite quantité d'eau qu'on peut maintenant traitées et envoyées à la population des Kalemi.
Et vous êtes en train de nous parler de crépines. Est-ce que pouvez-vous un peu expliciter à l'intention de nos auditeurs des Radio Okapi?
Bon, au fait, les crépines, ce sont des dispositifs techniques. Il y a des conduites, donc des tuyaux qui quittent les captages, qui va vers les lacs. Un dispositif technique qui aspire de l'eau. À partir du captage, on aspire de l'eau pour mettre dans la bâche du captage, en fait que nous envoyons cette eau-là pour les traitements au niveau de l'usine. Et puis, après traitement, on fait les refoulements pour la consommation vers la population.
Et j'ose croire que ces dispositifs datent de très longtemps, depuis l'époque coloniale.
Oui, je pense que ça doit être des dispositifs qui sont placés depuis l'époque coloniale et qui demandent au fait beaucoup de travaux pour essayer de les aménager, s'il faut même les allonger plus loin, essayer de quitter cette zone-là des sables où il y a beaucoup de déchets, où la rivière Kalemi aussi est en train d'envoyer chaque fois qu'il pleut. Il faudrait des travaux vraiment qui demande beaucoup de moyens. Mais cela n'empêche, il y a la direction générale par notre DG David Chilumba et son comité de gestion et le directeur régional M. Constantin Lumami sont en train de faire les efforts pour voir dans quelle mesure ils pourront envoyer une équipe pour déterminer les causes et évaluer pour voir si on peut trouver une solution définitive et durable pour ces problèmes-là.
La régie des eaux est en train d'alimenter en eau potable la population par intermittence. Donc vous envoyez de l'eau, à un moment donné, l'eau n'est plus là et ainsi de suite.
Oui, effectivement, à cette période ici, nous envoyons de l'eau partiellement. C'est-à-dire, nous avons un programme. Dès que nous trouvons que nous avons un peu d'eau qui peuvent nous permettre d'alimenter la partie basse, nous envoie de l'eau partie basse. Mais souvent, quand ça prend beaucoup de temps, il faudrait que les conduites soient pleines. Là, ça nous permet d'envoyer aussi de l'eau au niveau de la cité qui est la partie haute. Nous demandons à toute la population qui reçoive de l'eau de faire une provision. Parce que avec les climats actuels, il y a beaucoup de pluies qui se suivent. Il se fait que ça peut encore boucher et le temps qu'on arrive à nettoyer, la population pourra peut-être avoir un peu d'eau de réserve.
Monsieur Gilbert Magala, je vous remercie.
Fin de cette édition coordonnée par Élisée Chikota sous la supervision de Martin Sebujangwe. Elle a été mise en onde par Jean-Claude Nsiala dans une présentation de Jocelyne Moussaou. Merci de nous avoir suivis.